Bonjour, et bien nous nous retrouvons pour l'émission des mots de la foi. Et puisque cette émission, en tout cas la première édition, l'émission, rappelons aux auditeurs, passe trois fois, tombe le 1er janvier. Donc l'occasion pour nous de vous dire bonne année. Et avec un peu d'humour, offrez-vous donc pour cette bonne année Gotete et Exultate. Ce ne sont pas des bulles ni du chocolat, mais ça fait du bien. Et nous sommes heureuses, Elisabeth et moi, de travailler avec vous dans les mots de la foi. Alors, on vous dit bonne année.
Bonne année.
Alors, dans l'émission dernière, le pape rappelait que évangéliser, c'est jeter les filets au loin, qu'il fallait avancer dans la confiance en Dieu et que l'Église n'avait pas besoin de bureaucrates ni de fonctionnaires, mais de missionnaires passionnés. Et puis, nous en sommes au numéro 140. C'est difficile
de lutter contre notre propre concupiscence, contre les embûches, les tentations du démon et du monde si nous sommes isolés.
Voilà. Tentation du monde égoïste, ne pas être isolé. Donc, il nous propose un cheminement communautaire.
Oui, ou un cheminement à faire deux à deux. Et il y a des communautés entières qui ont été canonisées, qui ont été reconnues comme saintes parce qu'elles ont vécu héroïquement l'Évangile.
Ensemble.
Ensemble.
Alors là, effectivement, il nous fait une énumération. Et bien, pensons-nous tout simplement aux moines trappistes de Tibirine qui ont été récemment élevés justement à ce niveau de sainteté. Mais il n'oublie pas qu'il nous appelle tous à la sainteté et pas simplement à prendre comme modèle unique ces personnes martyres. Mais il nous parle de couples saints.
Oui, dans lesquels chacun est un instrument du Christ pour la sanctification de l'autre.
Voilà, alors couple saint, mais en tout cas aussi groupe, oui. Communauté. Et il nous dit que ces communautés sont appelées à créer un lieu théologal, c'est-à-dire où la parole de Dieu est prise en compte, où l'on peut faire l'expérience de la présence mystique du Seigneur ressuscité. Et il reprend là des propos de Jean-Paul II. Alors, comment ?
Par le partage de la parole, la célébration de l'Eucharistie qui fait de nous des frères.
Il reprend aussi quelques exemples, Saint Benoît et Sainte Scolastique, ou bien Saint Augustin et Sainte Monique. Bref, il nous parle donc de ces petites communautés.
Oui, mais il dit que ce n'est pas ce qui est le plus fréquent, ni le plus important. La vie communautaire, elle peut être aussi en famille, en paroisse, en communauté religieuse. Et cette vie communautaire, elle est faite de petits détails quotidiens.
Ça, je trouve ça tout à fait intéressant. Et puis, plus à notre portée que l'exemple des moines de Tibérine.
Oui. Ouais.
Alors, le pape nous rappelle comment Jésus invitait ses disciples à prêter attention aux détails. On peut les détailler, justement, ces détails.
Alors, il y a le petit détail du vin qui manquait lors d'une fête, à Cana. Le petit détail d'une brebis qui manquait au troupeau.
Et qu'il va chercher.
Oui. Le petit détail de la veuve qui offrait ses deux pièces, ses petites pièces. Le petit détail d'avoir de l'huile en réserve pour les lampes, au cas où le fiancé tarderait. Le petit détail de demander à ses disciples de vérifier combien de pain ils avaient.
Et ainsi de suite, parce qu'effectivement,
oui.
Il fait aussi asseoir les convives.
Oui.
Et puis pour les disciples aussi, avoir allumé un feu de braise avec du poisson en les attendant. Donc ce sont ces petits détails qui ouvrent à l'amour. Et il nous dit, la communauté qui préserve les petits détails de l'amour crée un lieu ouvert d'évangélisation.
Oui, parce que c'est le lieu de la présence du ressuscité qui va sanctifier cette communauté selon le projet du Père.
Et donc là, être en communauté, à deux, à plusieurs, très grande, très large, c'est là que se facilite la sainteté. Et nous dit-il, à l'opposé de la tendance à l'individualisme consumériste.
Et on revient à la parole de Jésus, que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi.
Donc, en communauté, mais ça ne veut pas dire une uniformité évidente. Par contre, ce qui fait la communauté, c'est de se rassembler autour du Christ. Et nous dit-il, cette communauté, elle est cimentée par la prière.
Oui, parce que il faut bien se souvenir que la sainteté s'est faite d'une ouverture habituelle à la transcendance, dans la prière et l'adoration.
Et il nous dit, je ne crois pas dans la sainteté sans prière. Bien qu'il ne s'agisse pas nécessairement de longs moments ou de sentiments intenses. Donc la prière, c'est, et l'esprit de prière, c'est communiquer avec Dieu. Et il nous reprend quelques exemples.
Alors il y a Saint Jean de la Croix qui recommandait de s'efforcer de vivre toujours en la présence de Dieu.
Alors, c'est intéressant, hein, parce que là, allez, cette présence, elle est...
Soit réelle, soit imaginaire, soit unitive, selon que les actions commandées le permettent.
Donc, une variété, même pour le même personnage.
Oui.
En fonction du lieu où se trouve et des moments.
Oui, et de ce qu'on a à faire. Que vous mangiez, que vous buviez, que vous parliez, que vous traitiez avec les séculiers, ou que vous fassiez toute autre chose, disait Saint Jean de la Croix, entretenez constamment en vous le désir de Dieu. Élevez vers lui vos affections.
Alors, il faut que tout cela soit possible.
Alors, donc, il faut des moments de prière, des moments réservés pour Dieu dans la solitude avec lui.
Et là, il nous reprend l'exemple de Sainte Thérèse d'Avila. La prière est un commerce intime d'amitié où l'on s'entretient souvent, seul à seul, avec ce Dieu dont on se sait aimé. Et le pape nous dit, ce n'est pas seulement pour quelques privilégiés, mais pour tous. Nous avons besoin de ce silence chargé de présence adorée, de la présence de Dieu. Et il nous dit que la prière confiante est une réaction du cœur qui s'ouvre à Dieu, où on fait taire tous les bruits pour l'écouter.
Et c'est dans le silence qu'il est possible de discerner à la lumière de l'esprit les chemins de sainteté que le Seigneur nous propose.
Là aussi, il reprend, il a le sens des mots.
Oui.
Autrement, nous dit-il, nos décisions ne pourront être que des décorations qui, au lieu d'exalter l'Évangile dans nos vies, le recouvrent ou l'étouffent. Des décorations qui étouffent. Bon, à bon entendeur. Et il nous rappelle
que c'est la contemplation du visage de Jésus, mort et ressuscité, qui recompose notre humanité. Même celle qui est blessée par les vicissitudes de la vie, qui est marquée par le péché. Nous ne devons pas apprivoiser la puissance du visage du Christ. C'est fort, ça.
Oui, c'est
apprivoiser
fort, oui.
La puissance du visage du Christ.
Cela veut dire, explicite-t-il, j'ose te demander, Y a-t-il des moments où tu te mets en sa présence en silence, où tu restes avec lui sans hâte, et tu te laisses regarder par lui?
Si tu ne lui permets pas d'alimenter la chaleur de son amour et de sa tendresse, tu n'auras pas de feu. Et alors, comment pourras-tu enflammer le cœur des autres par ton témoignage, par tes paroles?
Donc il nous propose le visage du Christ, les entrailles du Seigneur, où on entre, parce que c'est là que la miséricorde divine a son siège. Et là, il reprend Saint-Bernard de Clairvaux. Et il nous dit, en ce qui concerne le silence.
Le silence priant n'est pas une évasion, niant le monde qui nous entoure.
Donc une prière enracinée dans le monde qui nous entoure. Oui. On ne se retire pas du monde pour prier.
Oui.
On se retire du monde pour être en silence, mais on n'oublie pas ce monde. C'est intéressant.
Oui. Et on n'oublie pas l'histoire non plus. L'histoire de notre vie et l'histoire dont nous devons faire mémoire. La mémoire des actions de Dieu. La mémoire de l'alliance entre Dieu et son peuple.
C'est-à-dire, en fait, on poursuit la Bible.
Oui.
Voilà.
Oui.
Poursuivre la Bible, nous poursuivons le chemin de ceux qui nous ont précédés et qui ont marqué ces expériences. Dieu a voulu entrer dans une histoire et la prière est tissée de souvenirs, nous dit-il.
Pas seulement les souvenirs de la parole révélée, mais aussi de la vie personnelle, de la vie des autres, du monde.
Alors, il reprend les propositions d'Ignace de Loyola dans sa contemplation pour parvenir à l'amour, en nous demandant de ramener à la mémoire tous les bénéfices que nous avons reçus du Seigneur, pour alimenter la conscience du fait que le Seigneur te garde dans sa mémoire et ne t'oublie jamais. Et on retrouve là les petits détails. Et il propose aussi d'autres formes de prière, et notamment la supplication.
Oui, parce que la supplication, c'est l'expression d'un cœur qui est confiant en Dieu.
Donc supplication, prière de demande.
Qui va nous aider à continuer de lutter avec espérance.
Prière d'intercession.
Oui.
Donc, en nous rappelant que cette intercession exprime l'engagement fraternel envers les autres, parce que nous sommes capables d'intégrer dans notre prière la vie des autres, leurs angoisses, leurs rêves. Donc celui qui prie pour ses frères, qui prie beaucoup pour le peuple, dans cette prière d'intercession ou de demande.
Et bien sûr, la prière de louange, la louange festive, des gestes de pure adoration.
Et il reprend aussi, là, le pèlerin. Et il nous rappelle, c'est au numéro 156, la lecture priante de la parole de Dieu, plus douce que le miel. Et il reprend une proposition des évêques de l'Inde. La dévotion à la parole de Dieu n'est pas seulement une dévotion parmi tant d'autres, certes belle, mais optionnelle. Elle appartient au cœur et à l'identité même de la vie chrétienne. Elle transforme les vies, puisque c'est la rencontre avec Jésus dans les Écritures qui nous conduit à l'Eucharistie. Eh bien, sur cette belle parole, nous vous disons bonne semaine à tous, au revoir.